Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Rousse à nous.
Ratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là, en direct comme tous les soirs bien sûr, et jusqu'à minuit, l'After sur RMC à la radio, l'After sur RMC Sport News à la télé, évidemment l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec l'équipe type ce soir, les deux piliers, les hommes de la semaine, Jérôme Bretagne. Salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
3-0 pour le PSG face à Reims, donc vous le savez, la finale de la Coupe de la Ligue début avril opposera donc Lyon à Paris, et tout ça au Stade de France. Bien sûr, ensuite la Coupe de la Ligue disparaîtra pour peut-être renaître de ses cendres dans 3 ans, comme nous l'a annoncé Didier Quilleux l'autre jour.
Il a jamais dit que dans 3 ans ça renaîtrait.
Il a dit que c'était suspendu.
Il a dit que c'était suspendu pour 2 ans. Sous-entendu, ça peut revenir.
À son ton, c'était plutôt ça reviendra pas.
Eh bien écoute, on va tout faire pour qu'elle revienne.
Même lui, on n'a pas le sentiment que ça comptait vraiment de la faire revenir. Il n'était pas mécontent.
Les dirigeants du club, en fait, tu leur retires des matchs et dans 2 ans, ils vont dire oh ben non, il faudrait en rajouter.
Non, mais les dirigeants du club, une nouvelle fois, on va pas refaire le débat, mais majoritairement, ils
se rendent compte. Bon, on avait un sentiment différent entre Quilleux qui a accepté la décision qui a été votée et qui, visiblement, n'avait pas non plus envie de se battre pour cette compète, qui était la compète qu'on appelait la compète à Thierrier.
La coupe moustache.
Ouais. Coupe de Thierrier, mais bon, c'est plus drôle de dire la coupe à Thierrier. Et qui était la compète qu'il défendait, dont il faisait la promotion, qui l'a mis en avant, quoi.
Enfin, c'est vrai que Thierrier, on aurait dû l'interroger, tiens.
C'est sa coupe.
Peut-être qu'il. Alors,
Thierrier, déjà. Très bien de l'interroger, de le faire venir. Moi, il m'expliquera pourquoi il n'était pas venu à Bastia nous remettre le
trophée de champion de Ligue 2.
Déjà, Thierrier, quand il était président de la Ligue, on ne l'entendait jamais, puisqu'il avait un dircom qui lui disait surtout jamais parler. Ton ami Fred Giant.
Comment c'est mon ami?
Ah, c'est vrai que c'est
dire ton ami.
Dircom,
Vrai. Il disait ça comme, c'était surtout tu dis rien, tu parles jamais. Voilà.
C'est la comme, c'est la non comme.
Quand il parlait, tu comprenais rien ce qu'il disait. Le foot, c'était un peu le cadet de ses soucis. Alors, tu crois pas que si tu vas l'interroger maintenant, alors qu'il est mandaté, missionné pour réformer l'ENA, ça va venir l'intéresser de parler foot. Déjà qu'à l'époque, ça l'embêtait.
Ouais, il est devenu l'avocat de quelques acteurs du foot, Bon,
tu sais où est-ce qu'il fallait aller quand tu voulais lui parler,
Jérôme. À Thierrier.
À la piscine du Fouquet, vers 11h du mat. Il avait fait ses longueurs depuis 9h.
C'est vrai,
en même temps, c'est important de s'entretenir. Le sport, c'est important. Ça te fait vieillir mieux.
Fouquet, c'était son domaine.
Alors,
chez le barbier pour travailler sa moustache.
J'aimerais vous donner quelques résultats européens. On aura Simone Rovera avec nous tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Coupe d'Italie. Ce soir, la Juve jouait face à la Roma. La Juve s'est qualifiée en quart de finale de Coupe d'Italie 3-1 face à la Roma. Résultat anglais. Leicester a gagné face à West Ham 4-1. Tottenham avec le retour du Goloris, titulaire ce soir. Tottenham a gagné.
Retour surprise.
Retour un peu surprise. Tottenham a gagné 2-1 face à Norwich. Et actuellement, à 5 minutes de la fin, Burnley mène 2-0. À Manchester.
Oh la pauvre.
Face à United. Encore. Donc voilà encore une soirée pourrie pour United.
Non, c'est pas de sa faute.
C'est pas grave. Manchester United, c'est jamais grave.
Non, l'EBITDA.
C'est plus grave.
L'EBITDA est là pour tout rattraper.
Tout va bien, les comptes se portent à merveille, tout va bien.
L'autre soir, Fred Hermel nous racontait la réforme de la Coupe du Roi. Et du coup, on a failli friser une belle surprise. Puisque figurez-vous que Ibiza, club
dirigé par David Guetta,
voilà. Pas mal de joueurs italiens avaient été allés ces derniers temps. On avait raconté ça.
Cassano était sur le banc. Il n'est pas rentré.
Mais sur la pelouse, on avait quand même Kevin Prince Boateng.
Ibiza affrontait le Barça.
Ressé. Et Verratti a pas pu y aller parce qu'il était au
Barça. Verratti, il a envoyé son frère. Donc, il est un peu plus sage. Mais
je crois qu'il y avait Souleymane Diawara et Mamadou Niang aussi. Non,
c'est pour la pré-soirée. Ça.
Bon. En tout cas,
ils ont leur place.
Ils jouaient.
Sans parler de Sidney Govou, qui même en vétéran peut jouer tranquille.
Ouais.
Avec Peggy en pointe. Là, franchement, t'as un 11 Ibiza de feu, quoi.
Et puis encadré par Cécignon. Franchement,
Cécignon, je sais pas s'il arrivait à aller jusqu'à la boîte. Il picolait avant d'y aller. Je sais pas s'il avait nécessité d'y aller. Et Cécignon, c'est beaucoup de la bière, donc la bière en boîte, pas trop. Cécignon.
Stéphane Cécignon.
Ouais. C'était bière beaucoup.
Attention, elle a Gidiouf.
Je peux te dire que le matin.
Elle a Gidiouf, titulaire.
Le matin dans le vestiaire, ça sentait pas la bière.
Ah bon?
Non.
Ah, si Cécignon, il envoyait.
Ah, il y a du lourd là.
Donc Ibiza. Ah,
Alex aussi dans l'équipe. Oui. Alex aussi.
Alex de Saint-Etienne, la panthère.
Oui, mais c'est surtout au PSG qu'il a fréquenté.
Vampeta, non?
Vampeta, il fournit, ça, c'est pas pareil.
Donc Ibiza a affronté le Barça. Et figurez-vous que le Barça était quand même mené 1-0 par Ibiza jusqu'à la 72e.
Il joue en quelle division Ibiza?
Détroit. Enfin, ce qu'on appelle la Segunda B en Espagne.
C'est ouf, déjà qu'une île comme ça, qu'ils aient une équipe de foot.
Mais... Il y a Mallorca, ils ont leur équipe Mallorca en Liga.
Là, tu penses à tout sauf au foot, quoi.
Et donc, Griezmann a mis un doublé, deuxième but de la victoire à la 96e quand même. Hein.
Ah, quand même.
Donc, ils ont galéré. Mmh. Et Valence jouait également ce soir, s'est qualifié face à Logroñés. Et actuellement, Salamanque affronte le Real. Ça vient de se terminer, 3-1 score final pour le Real, avec Gareth Bale qui a joué et qui a marqué, figurez-vous.
Oh!
Exactement.
Ah, il revient.
Voilà pour les principaux résultats européens que je voulais vous donner ce soir, bien sûr. Dans l'after, on va avoir une grosse page mercato parce que Lyon est toujours plus actif. Plus les jours passent, plus il se passe des trucs à Lyon. Ouais, c'est incroyable.
Qu'est-ce qui se passe à
Lyon, là? À Lyon, ils sont comme des
oufs. Là, ce qu'il fait, là,
ça recrute, ça envoie de la thune.
Il a sorti le chéquier.
Voilà, exactement. Donc, on fera le point.
Il a filé la carte bleue à Flo Maurice, il a fait vas-y, régale-toi.
Vas-y, fais ce que tu veux.
Fais ce que tu veux.
Moi, ça me pose un problème.
Pas faire du shopping.
Très bien de filer la carte bleue à Juninho.
Oui, je pense que Juninho a un peu plus de.
Non, mais là, il lui a dit fais-toi un kiff, Flo Maurice, de toute façon, au mois de juillet, t'es plus là.
Oui, mais.
Peut-être.
Voilà. Comme ça, s'ils font le brésilien, la surprise générale,
Guimarães,
grosse concurrence. Guimarães, ouais. C'est un plan Juninho, ça. C'est pas.
Ah oui.
C'est l'œil de Juninho, ça.
Donc débat mercato à suivre. Simone Rovera, toute l'actu du jour, bien sûr.
Porto, il va pas, Florent.
Mais pour démarrer, évidemment, vous le savez, les trois points, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Trois points de débat de Jérôme Bretagne, messieurs dames. Jérôme, on t'écoute.
Bon, le premier, on en reparlera, mais je voulais mettre ça en avant, l'importance des coups de pied arrêtés, l'importance de ce premier but, encore plus sur des matchs coup près. Donc, j'expliquerai pourquoi. Le deuxième point, bien sûr, le meilleur joueur de notre championnat et de loin, Neymar, qui sans lui, je pense qu'on serait bien emmerdé. Et le troisième point, écoute, moi je vais te dire la stratégie de Thomas Tuchel encore. Alors on va dire que je fais un acharnement sur lui, mais
depuis quelques semaines,
ouais,
ce qui t'a
fait, ouais, c'est vrai. Mais je constate des choses dans son management, c'est-à-dire donner du temps de jeu à certains. Je pense que ça leur rend pas service. Et au contraire, il est en perd certains joueurs. Donc je comprends pas son mécanisme, son fonctionnement.
Daniel, tes trois points.
Il n'y a pas vraiment de débat, donc il n'y a pas vraiment trois points de débat. Le PSG a très tranquillement géré son match. Reims n'a jamais pu être outsider dans cette partie. Oui, parce que Neymar, c'est le deuxième point, a pris les choses en main. Et parce que Neymar, maintenant, depuis fin novembre, depuis le match à Montpellier, en fait, où il avait été à la fois catastrophique 75 minutes en dessous de tout et brillantissime sur un quart d'heure. Et ça a semblé être son réveil. Et ça suivait le match au Real, donc il y a un peu tout qui se télescope à ce moment-là dans la saison de Neymar, qui effectivement est l'homme du match ce soir, qui fait à peu près tout. À l'inverse, troisième point, Mbappé que j'adore défendre, mais qui me déçoit. Il est assez irrégulier en ce moment, je trouve. Il n'est pas vraiment concerné. Ce soir, il était censé jouer avant-centre, il était sans arrêt sur le côté. Alors que même quand il joue avec cette formule-là, 4 devant, il est derrière Icardi. Ouais. Donc qu'est-ce que tu vas foutre sur le côté comme ça? J'ai pas compris son positionnement, j'ai pas compris ses choix de jeu. Y a beaucoup de choses qui m'ont déçu chez lui ce soir.
Bon, moi j'ai trois points aussi, là, on a le temps de les faire ce soir. Mon premier point ne concerne pas le PSG. Mon premier point, c'est Juninho, s'il te plaît, prends le pouvoir. J'en parlerai tout à l'heure.
PSG? Non, Lyon.
Non, oui, c'est volontairement.
PSG.
Non, j'ai dit ne concerne pas le PSG, mon premier point.
Ah! Voilà. Mais t'as dit le contraire, donc c'est pour ça.
J'ai dit le contraire.
Pas précis.
Pardon. Des fois, ma langue fourche.
Ouais.
Je m'excuse, Jérôme. Deuxième point, moi je suis un peu déçu quand même par Reims. Tu as l'opportunité d'aller au Stade de France. Comme vous
plaît,
le dites,
joue sérieusement,
zéro suspense,
quand
zéro.
Tu prends un but d'entrée sur coup de pied arrêté.
Oui, Jérôme va en reparler, effectivement, ouais. Avec une erreur bête quand même.
Ouais.
Et troisième point, c'est une question que je vous pose. Il y a eu Lorient il y a quelques jours, il y a Reims ce soir. Est-ce que finalement, vous prenez du plaisir quand vous regardez les matchs du PSG? Je veux dire, en tant qu'amateur de foot, quoi.
Bah, j'en prends beaucoup plus qu'en voyant toutes les autres équipes. Oui. En Ligue 1.
En Ligue 1?
Ah oui, en Ligue 1, oui.
Non mais moi il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fait t'as l'impression que tout est toujours écrit d'avance.
Oui mais
c'est à dire qu'en fait tu vois c'est cette espèce d'ultra domination en fait ça me fait perdre l'intérêt au match.
Et il n'empêche que la Ligue 1.
Je te parle pas de la production de jeu.
Je suis d'accord mais la Ligue 1 par ailleurs c'est regardable. Quant à le PSG, t'as une équipe sur le terrain donc tu regardes ce qu'ils font, tu regardes leurs mouvements. Après tu peux aussi dire même s'ils sont supérieurs, effectivement, et qu'il n'y a pas photo, parce que ça, d'autres équipes pourraient le faire. Mais le pressing constant, le contre-pressing, c'est quand même quelque chose qui se travaille et qui est quand même bien fait quand ils veulent le faire. C'est quand même très intéressant. Il n'y a pas d'autres équipes en Ligue 1 qui essayent de le faire. Lille essaye de le faire. Lille est une équipe qui travaille là-dessus, ça se voit. On l'a encore vu hier. Alors, le problème, c'est que ça a été agrémenté de beaucoup d'erreurs techniques. Mais l'autre équipe qui essaye de faire ça, de travailler, on va dire, comme sur des standards européens dans le jeu, c'est Lille. Donc hier, il y avait cet aspect-là à regarder, mais l'ensemble du match était mauvais techniquement.
Ouais, donc ça
là, au moins,
un
sur une pelouse abominable, le PSG a quand même essayé de jouer.
Mieux que l'autre fois contre Strasbourg.
Donc ouais, que tu fasses ta fine bouche quand tu regardes le PSG, mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais quand tu regardes les autres équipes de Ligue 1? Je veux dire, à un moment, j'ai bien, il faut être cohérent. Quand tu regardes les autres matchs de Ligue 1, c'est abominable.
C'est vrai que t'as raison sur le.
Moi, c'est le côté, tu sais, victoire inéluctable en fait, qui au bout d'un moment devient un côté.
Oui, mais ça, on commence à être habitué. Ce que je veux dire, ils gagnaient tout à part l'année dernière où ils.
En fait, t'as envie de les voir en difficulté en fait.
Et quand tu vois.
Ils ont été en difficulté,
mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, parce que Reims était incapable, parce que encore une fois, il y a le scénario du match qui fait que
c'est comme ça depuis 7 ans.
Ça, ouais.
Le côté, en fait, Reims Globetrotter, en fait, au bout d'un moment,
c'est comme ça depuis 7 ans.
Je te rejoins un peu sur le match d'aujourd'hui, si tu veux. C'est pour ça que je voulais ressortir Neymar, parce que déjà, c'est une chance de l'avoir dans ce championnat et dans ce genre de match. Et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Et quand il est vraiment bien concerné, comme dit Daniel, depuis un bon nombre de matchs maintenant, il est quand même au-dessus de la mêlée, c'est le meilleur. Et que heureusement qu'il est là, parce que ses passes, parce que ses prises de balles, ses contrôles, sa percussion, ses coups de pied arrêtés aujourd'hui, ça change des coups de pied arrêtés de Di Maria. Il faudra en reparler aussi.
Il faut quand même revenir, parce que ce que tu dis, t'as raison. Oui, c'est, quand tu vois jouer des mecs comme ça, c'est toujours mieux que de voir les autres équipes. Mais la façon dont tu le dis, et je sais que c'est. Tu dis pas ça, mais il y a énormément de gens qui relaient ça. Comme en déformant ton idée, et c'est une énorme bêtise, c'est que ce serait la faute du PSG.
Ouais. Non, bien sûr que non.
Dans les autres championnats, tu as les mêmes monstres. À côté à part en Angleterre.
Et c'est aussi la faute des autres qui n'arrivent pas à proposer un truc pour les gêner.
Parce qu'en Espagne, on va y revenir avec Reims. 100 des temps ou 90, tu sais aussi que le Real ou le Barça.
Oui, mais en Espagne, un jour, un Leganés, il va aller battre le Barça à Barcelone parce qu'ils vont tenter un truc.
Il jouera autrement, il aura d'autres joueurs. Il aura une autre mentalité. Nous, on n'a pas, parce qu'on n'a pas les joueurs, on n'a pas les entraîneurs pour travailler ça.
Oui, mais je suis déçu, moi.
Moi, je te renvoie à tout ce qu'on a dit sur Saint-Etienne, au podcast de lundi, sur la situation du club quand Puel est arrivé, sur le constat que Puel a fait, sur la préparation physique, sur le travail, sur le fait de devoir tout recommencer, de tout remettre à plat, et comme c'est comme ça dans plein de clubs où rien n'est fait comme il faut, où rien n'est géré comme il faut, comment veux-tu travailler pour essayer de proposer ne serait-ce qu'une réplique?
Normalement à Reims ça roule, Daniel, on y était là il y a la semaine dernière, on mettait
Reims,
en avant,
tu vas pas leur demander l'impossible.
Attends, moi je te dis,
mais demande l'impossible à Lyon, ils changent tout cet été.
Reims, ce soir, je leur demande l'impossible. Reims, ils sont maintenus, ils vont une 20 saisons de pépère. Vas-y, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, Gilbert.
Non, mais les équipes avec qui il faut être sévère, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est ces équipes-là.
Non.
Tu vas pas être sévère avec Reims.
Non, moi, je vais
sur
pas être
sévère. Ce soir, si.
Ce soir, tu peux être sévère. Mais attaque-toi.
Non,
à
mais de façon générale,
non, mais qui refait un mercato en plein hiver, qui a viré un entraîneur, qui est allé prendre Rudy Garcia.
Non, mais on en a parlé hier.
Qui propose pas la moitié d'un semblant d'animation offensive.
On les a démontés hier, on va pas parler de Lyon. Là, c'est vrai, moi je
rejoins. Gilbert dit qu'il se fait chier. Il s'est fait chier ce soir. Hier soir, il a pris une lame, il s'est coupé les veines.
Ouais, non, mais moi je parle même pas de.
Non, mais en fait, t'as bien compris que moi je te parle de scénario de match. Hier soir, t'as le retour à la fin de Lille. Bon, il se passe un petit truc. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puis t'as une séance de tir au but. Une séance de tir au but, c'est toujours sympa. Bon,
non, mais attends, écoute, le scénario, moi je te rejoins un peu sur le scénario. On est habitué à voir ce genre de match matchs du PSG et moins que certains matchs où, en effet, Daniel, tu disais, le fameux contre-pressing, c'est bien, c'est un petit peu nouveau, le PSG se force à le faire, même en Ligue 1, et c'est bien, et à l'arrivée, ça donne des scores assez larges, et tant mieux pour le PSG, parce que ça les met dans le tempo le jour où ils vont avoir une équipe en face qui va avoir un peu plus de répondants techniquement. Aujourd'hui, même le match de Lorient, mais est-ce que tu peux retenir ce match de Lorient en Coupe de France? Parce que
c'est une équipe de Ligue 2.
Non, ouais, et puis l'équipe avait tourné du PSG, donc moi je le mets de côté. Le match d'aujourd'hui, il y a une équipe qui se dégage, même s'il manquait des joueurs, il y avait des cadres qui étaient bien là, il y avait les deux hommes forts, c'est-à-dire Neymar et Mbappé. À l'arrivée, le PSG l'a moins fait que d'habitude, ce contre-pressing. Mmh. Donc ça a donné par moment pas de la nonchalance, mais un rythme, un tempo tranquille. Et là, j'en veux à Reims, comme tu dis, parce que nous, on avait mis en avant le travail de David Guillon il y a plus d'une semaine.
Oui, on était sur place.
Oui, normal. Franchement, ils tiennent la route en Ligue 1. Ils sont maintenus assez facilement l'année dernière. Là, cette année, je pense que ça sera pareil. Mais après, tu dois essayer de produire plus de choses. Du moins, de tenter quelque chose de différent.
Ils font chier le Barça pendant 70 minutes ce soir.
Le scénario, le dessert. Oui, mais après, ça va à travers le choix de ces hommes aujourd'hui. Moi, je suis désolé. J'écoutais les commentaires. C'était Habib qui commentait. Moi, je suis souvent d'accord avec lui dans son analyse et tout ça. Mais quand il met en avant certains milieu de terrain de Reims, celui qui se fait expulser, là, Mounetsi. Les mecs, c'est un coureur.
C'est un coureur à pied. Bien qu'en Ligue 1, tu vois des mecs comme ça.
Exactement. Lui, il prend le ballon.
Il faut qu'il aille faire un autre sport. Il sait pas jouer au foot.
Lui, il prend le ballon, il rentre dedans. Alors, il va faire des percussions, des fois. C'est un miracle qu'il passe. Mais à l'arrivée.
C'est des catcheurs.
À l'arrivée, il voit rien.
Qu'est-ce qu'il fout là?
Il a aucune vision du jeu. Il voit rien.
Il a pu passer
physiquement,
les barrières de la formation. Vous savez que c'est pas du foot, ça.
Là, moi, j'en veux même pas à ce jeune-là.
En plus, l'athlé en France se porte mal.
Qui a hurlé un vive la Ligue 1 avec son gilet jaune.
Là, je parlais de Mounetsi. Il se rappelle un peu les qualités qu'il avait. C'est pour ça qu'il.
C'est lui qui s'en occupe.
Ouais.
Mais non.
Non, je plaisante. Mais non, mais quand tu vois ce genre de joueur.
Je vais quand même vérifier. Pierre!
Je peux te dire que ça soit Dia, Mounetsi et même d'autres, franchement, pour aller faire des passes vers l'avant, non, c'est pas possible.
Non. Bon, c'est pas lui.
Non, c'est pas lui.
C'est pas lui. Qui s'occupe de
non.
Bah, viens deux secondes là.
Pierre, viens défendre les joueurs de Ligue 1 dont tu t'occupes.
Alors, parce que Mounetsi a collé un tacle par derrière, c'est forcément un joueur à moi, c'est ça?
Ouais,
À la base, on l'a pas du tout dit ça.
Ah, mais je sais pas, tu me demandes.
Mis dans la même catégorie de joueurs.
de joueurs, oui.
On disait juste que c'était un mec qui devrait faire du catch à 4 ou du catch à 2, mais surtout pas du foot.
Après, ceci dit, j'ai tous trouvé nerveux, même les Parisiens ce soir.
Après, on s'est juste demandé si c'est par hasard toi, comme t'es l'agent le plus influent maintenant en Ligue 1, qui gérerait pas ses intérêts.
Non.
Arrête, maintenant t'es monté en gamme, c'est toi l'agent.
Oui, non, mais
quel est l'agent le plus important que toi en Ligue 1?
T'as 800 joueurs, attends, tu peux pas avoir tout.
Qui est plus important? Est-ce que Franck Bellassé
un Flavienté plutôt que
six
joueurs moyens, non?
Jérôme, il faut faire le point. Franck Bellassé, au-dessus ou en dessous de toi?
Au-dessus, tu rigoles, Francky, c'est 25 ans d'expérience.
Je sais pas, je demande.
Faut respecter les.
Bruno Sartin, sont là. Au-dessus ou en dessous?
Bruno, il a encore beaucoup de joueurs. Il a plus de joueurs en Ligue 1, Bruno Sartin.
Bruno, discret, efficace.
Attends, tu vas pas faire croire que t'es la Ligue 2 des agents quand même.
Mais heureusement qu'on n'est pas que 3 à travailler quand même. Attends.
Il y en a beaucoup. Puis Franck a fait son coup là. Maintenant, il va se coucher un peu là. Il a pris son chèque avec Rongier. C'est bon. Il ressortira dans 2 ans.
Tu sais quoi, je veux pas participer à ça.
Oui, je crois qu'il a pris Francky.
La dernière fois qu'il est venu, il a changé de monde déjà. Donc, déjà, tu vois déjà que le transfert, il vient d'être payé. En fait.
Revenons sur le PSG.
Il a pas changé encore.
On a Thomas.
Bah, le transfert de Rongier, non, il a dû prendre un 10%.
On a Thomas.
À combien?
Je sais plus. Oublie, on s'en fout.
Thomas,
bonsoir.
Il a
pas
loin de 20.
Il a dû rentrer du cash.
Ah oui.
Salut Thomas, ça va?
Oui, ça va parfaitement. Après une petite qualification finale pour aller affronter l'OL, rien de mieux.
Bon,
ouais.
Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi, principalement?
Je retiens que Paris c'est quand même, on va dire, rendu la tâche facile en marquant assez vite. Après Tourelle avait mis une équipe aussi pour avoir la maîtrise du ballon et asseoir une certaine domination, mais vous en avez parlé, moi je suis ultra déçu du match qu'a proposé Reims. Non pas parce que, alors certes ils sont moins forts, mais ils ont quand même proposé. C'est une équipe que je suis moi en Ligue 1. Alors oui, je regarde la Ligue 1. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais je regarde. J'ai regardé quelques matchs de Reims cette année, donc celui où ils ont été gagnés au Parc, celui là où ils ont été gagnés à Marseille aussi. C'est une équipe qui a, moi, qui m'a habitué à proposer quelque chose. Et là, au vu de l'événement, franchement, une demi-finale, chez eux. Bah moi j'ai cru qu'ils jouaient un huitième de finale de Coupe de la Ligue, quoi, sans grande intention, quoi. Donc voilà. Ouais, après Paris sérieux appliqué, puis comment dire, Daniel l'a dit, Neymar depuis Montpellier, bah quand il est comme ça, on a juste envie de lui dire continue.
Bon, et puis, Neymar c'est Neymar.
Non mais l'application, hein, Jérôme, tu vois, c'est quand même, voilà, c'est mieux.
Non mais bien sûr, de toute façon il est bien dans ses bottes, ça se voit. Quand ce genre de joueur est bien dans ses bottes et bien dans sa tête, après physiquement il enchaîne les matchs, donc forcément il est à son top. Il enchaîne les courses, il rechigne pas à défendre. Quand il perd le ballon, il se roule pas 10 fois par terre. Il va essayer de le récupérer, il le perd pas souvent, mais quand il le perd, bah, c'est ce qui fait. Il met le PSG à chaque fois. Quand il doit aller percuter, il va percuter. Quand il doit faire une passe D, il a fait. Les coups de pied arrêtés, là, il a pris le relais de Di Maria parce qu'il jouait pas à l'arrivée. C'est les deux buts sur coups de pied arrêtés. C'est Neymar qui les tire sur le premier. Là, je voulais revenir, moi, sur le premier. Je te coupe, hein, excuse-moi, mais quand tu t'appelles Reims, que t'as ces moyens limités, ok, pas de problème, que tu crains à travers ta composition d'équipe et ce que tu mets en place, c'est-à-dire une équipe qui attend, qui joue dans ses 30 mètres, bien sûr que quand tu attends face à toi, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Sarabia, des joueurs qui sont des dribbleurs, donc forcément tu vas concéder des coups de pied arrêtés, tu vas concéder des corners parce que le bloc est bas, mais comment sur un corner à 0-0 en début de match, le gardien, qui est pas non plus, alors certains disent, ouais, c'est pas un mauvais gardien, mais bon, c'est pas le meilleur de la Ligue 1, et ce soir, il fait un match catastrophique. Ce gardien-là, ou l'entraîneur t'oblige pas à mettre deux mecs au poteau. Mais ça change quoi, en fait? Parce que s'il y a un deuxième mec au deuxième poteau,
ouais,
la tête de Marquinhos, mais le mec, il la prend poitrine avant le rebond, juste après le rebond, et il la sort, et ça fait 0-0, et on sait pas ce qui peut se passer. Cette stratégie, je pense que Reims aurait craqué au bout d'un moment.
Je t'ai déjà vu, toi, au deuxième poteau.
Oui, mais sauf que oui, mais tu m'as vu parce que le gardien me mettait des claquettes sous la barre. Mon gardien, Michael Landreau.
Ah, faut reconnaître, t'avais pas non plus la détente de Michael Jordan.
T'as fait comme ça. Ah.
Mais je vais te dire, je chante souvent Mika parce que il a fait des conneries. Et le jeu aérien, c'était pas, c'était sorti, entre autres. Mais par contre, où il avait raison, c'est vrai que. 8 fois sur 10.
Ah, mais ça, des mecs, ils en mettaient partout. Tout s'empêchait pas de rentrer.
Non, il en mettait pas au premier poteau, lui.
Ah, il mettait
toujours. Il mettait au deuxième. Bon, parce que j'avais pas trop envie d'aller au duel de la tête. Valait mieux que je reste un petit peu. Et franchement, il avait raison, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une déviation d'un joueur offensif, elle venait en général sur moi. Et j'en ai sorti un tas des ballons. Et c'est vrai que c'est normal. Des buts qui viennent percuter le ballon, la mettre au premier poteau, ça peut arriver, mais ça arrive rarement. Mais au deuxième, les déviations, ça arrive tout le temps. Comment les entraîneurs de gardiens, aujourd'hui, t'as même un entraîneur de gardien, plus le gardien, et les mecs, ils te disent, bon, non, moi, je suis assez costaud sur la ligne. Moi, je prends tout le but. Hein. Il y a 10 mecs dans la surface, ouais, en minimum. Mais moi, les 5-50, c'est chez moi, il n'y a personne qui rentre là. Et moi, je ne veux pas de défenseur. C'est moi, je suis très solide. Bah, la preuve, ils prennent un but 1-0. Le match, il est plié. C'est fini. Tu peux pas, t'as pas les moyens d'aller inquiéter, surtout avec cette stratégie-là mise en place par Guillon. C'est ça que je reproche, moi, Reims.
Oui, ça les empêche pas de proposer autre chose aussi après le but encaissé. Tu peux aussi avoir une réaction.
Oui, mais.
Ils ont été très, très timides.
Oui, mais.
Non,
mais je suis d'accord avec toi. Sauf que quand ta stratégie est de Guillaume, moi, c'est ce que je lui reproche, c'est de refuser le jeu. Ok, d'accord, peut-être qu'il se dit. Écoute,
c'est la meilleure défense d'Europe. Hein.
Je vais mettre.
Au coup d'envoi, j'ai entendu ça répéter au moins 1000 fois. C'est la meilleure défense d'Europe.
Non, mais.
Là, par exemple, je veux dire, dans les conneries qu'on entend régulièrement, on le positionne où au classement? Non, mais expliquez-moi, parce que parfois, moi, le vocabulaire Ligue 1, j'ai du mal à comprendre. Quand on dit meilleure défense d'Europe et qu'on parle de Reims, et qu'on t'assène ça comme ça sur la tronche, mille fois.
Mais encore une fois, Daniel, c'est.
Comme ça. Il y a des gens qui avalent, quoi.
Mais non, mais le problème, c'est que les gens, ils regardent les statistiques. Ils se disent, putain, meilleure défense de France, c'est Reims.
Non, parce que quand
ils ont pris 22 buts.
Non, mais parfois, tu dois expliquer ça à un enfant, tu vois. Le match commence. Je suis à côté de mon fils, il me dit. Ah, ils sont si forts que ça, Reims, c'est la meilleure défense d'Europe, ce qu'il entend à la télé. J'ai eu peur qu'il soit détraqué, toi. J'ai dû lui expliquer deux, trois choses.
Thomas, un truc à rajouter ?
Oui, rapide, c'est juste sur la prestation de deux Parisiens qui m'ont plu et qui jouent pas forcément tout le temps. Je trouve que Paredes monte en régime aussi et que, bah, voilà, il aura un peu plus, enfin, il aura son mot à dire, je pense, dans
à
une
part
rotation.
Un ballon perdu en première période qu'il a un peu cagué en cherchant le coup franc, parce que sur le coup, il veut le coup franc.
Non, mais il veut surtout dribbler, du moins passer entre les deux.
Oui, après, il fait genre, je veux obtenir la faute et tout, mais il y a eu Ocas derrière. Ouais. C'est le seul accro dans un match, encore une fois, où, c'est vrai qu'il est pas mal au milieu, il récupère. Il a cette frappe de balle. Paris devrait essayer d'en profiter un petit peu plus.
Exactement.
Il a une frappe assez sèche qui est pas mal.
Il a tué 3-4 oiseaux déjà depuis qu'il est arrivé. Donc maintenant, au bout d'un moment, il va.
Alors, là, il fait une reprise tibiale.
Alors, Jérôme, quand il est arrivé, dans les qualités qu'on vendait à son sujet, c'était sa frappe de balle. Ouais. Comme tu dis, les premières, on sentait qu'il avait envie un petit peu de montrer. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il a arrosé. Là, il a fait l'arrosage au parc. Mais en prenant confiance et en même temps que ça s'améliorait sur le terrain, sa frappe est devenue plus intéressante. Et je peux t'assurer que ces derniers temps, j'en vois une ou deux. Tu te dis, jamais ils le mettent dans des bonnes conditions, je pense qu'il devrait, tenter d'en envoyer une ou deux, sa coche.
T'as raison, entre les frappes, entre ses transversales aussi, parce qu'il est très adroit.
Ça, c'est pas mal.
Sans forcer,
il est un des meilleurs gelons de l'équipe.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Après.
Ouais, je t'ai dit, Jérôme,
Non, mais après, c'est vrai que on en revient toujours à la même chose. Est-ce que lui se sent... Alors aujourd'hui, il a l'air d'avoir un peu plus de crédit aux yeux de Thomas Tuchel, son entraîneur, parce qu'il joue plus, parce que ses prestations sont bien meilleures. Même Thomas Tuchel l'a dit. Donc, ok, ça, il le sent. Après, il y a les matchs importants qui vont arriver. Est-ce que là, il le mettra dans ces matchs-là clés, les gros matchs où il faudra aller chercher des gros titres? Moi, j'en suis pas certain.
Pas certain, mais il a un profil qui peut... Tu peux le faire rentrer sur une bonne demi-heure, tu vois. Enfin, je pense. Et moi, j'ai juste, pour finir, je pense que par rapport à l'adversaire, alors je souhaite qu'on aille loin en Ligue des Champions, mais qu'on peut, avec l'adversaire qu'on aura en face... suivant les qualités offensives de cet adversaire, justement, l'option Diallo à gauche, je pense que Tuchel y réfléchit de plus en plus. Je pense que ça amène une autre stabilité défensive, je trouve. C'est... Et puis, tu prends moins de risques,
mais de toute façon, et pour finir là-dessus, Gilbert, parce que là, t'as l'air pressé.
Oui, parce que y a Nico
quand tu joues avec Diallo à gauche, bien sûr, tu vas lui demander moins d'apport offensif que Bernat, ce qui me paraît logique, que Kurzawa, mais Kurzawa, j'ai même pas envie de le citer parce que j'ai plus envie de le voir jouer. Donc Diallo t'apporte cette sécurité-là défensive. En plus, quand t'as un Neymar qui est placé devant, mais plus à l'intérieur, et puis qui est assez libre, parce qu'aujourd'hui, il était à droite, à gauche dans l'axe, je pense que le latéral gauche a moins besoin d'aller apporter du surnombre. Il passe moins sur les côtés, le PSG. C'est pas une équipe qui va... moi, je reprochais souvent aux latéraux d'être trop tout de suite et d'apporter une fois de temps en temps. Autant Meunier a plus de liberté et plus de faculté à le faire. Autant là, le latéral gauche, il a pas forcément d'aller... il a pas besoin d'aller au poteau de corner pour aller centrer, quoi. Autant qu'il reste en retrait et que ça soit lui qui assure une sécurité. Donc Diallo le fait bien. Écoute, si ça peut lui donner du temps de jeu aussi, bah tant mieux pour le PSG. Au moins, il y aura Bernat.
Merci les gars, à plus tard.
Salut Thomas, rappelle quand tu veux. Un mot de Nico qui est supporter rémois et qui sort du stade pour conclure sur ce match. Salut Nico.
Ouais, salut les gars, salut l'after.
Salut Nico.
Salut Jérôme, salut Daniel, salut Gilbert.
Salut, est-ce que tu es déçu par ton équipe ce soir?
Déçu de l'état d'esprit surtout, puisque ils n'ont pas joué un match de coupe pour moi ce soir le stade. Ils ont laissé Paris dans leur confort, et ce qu'il faut surtout jamais faire contre eux. Donc ils ont pris la domination du ballon, de la possession. Et après voilà, ils ont malheureusement pour nous, ils ont marqué sur deux coups de pied arrêtés, ce qui est plutôt notre point fort. Et après voilà, ça a déroulé devant.
Bon, donc on est tous d'accord finalement sur la prestation rémoise, rémoise du soir. Dis-moi, quand on était à Reims l'autre jour, on avait les ultras avec nous et le président des ultras était foudrage parce qu'il disait il y a plus de mecs qui achètent des billets pour aller voir le PSG que pour aller voir Reims.
C'est vrai.
C'était comment ce soir là du coup?
Bien démarré l'after en tout cas.
C'était mitigé dans les tribunes. C'était mitigé. Il y avait beaucoup de supporters parisiens aussi. Donc après voilà, on n'est pas très loin de Paris, donc ça peut se comprendre aussi. Et en tout cas le parcage visiteur était complet au niveau des supporters parisiens.
Bon, bah Nico, merci. rentre bien à la maison.
Et juste petit détail pour les Parisiens, fin de match, ils ont été assez agaçants, surtout Mbappé. Et au niveau du jeu, j'ai trouvé Neymar et Mbappé qui revenaient vraiment sur les côtés en faisant les efforts. C'est un bon signe pour eux pour le match de Dortmund s'ils restent dans cet état d'esprit-là.
Ouais. Salut Nico, ça marche. Bah Dortmund, Dortmund. Ouais, on a eu un petit débat tout à l'heure dans Team Duga sur le fait que tout le monde ne parle que de Dortmund un mois avant. Est-ce que finalement c'est un problème ou pas?
C'est pas ce genre de match qui va nous faire changer la tendance, hein. Ça c'est sûr. Hein.
En tout cas, je vous félicite, puisqu'après 24 minutes d'after, les noms de Verratti et de Kurzawa n'ont pas été prononcés.
Kurzawa n'a pas joué.
C'est Kurzawa, je l'ai dit.
Je l'ai dit.
Eh ben oui, j'ai dit quand il a parlé.
Exact. Mais pas Verratti.
T'as vu que Diallo c'est pas si mal arrière gauche. C'est une position dans laquelle il peut être bien. Diallo.
Mais moi je te le dis, et encore plus dans ce PSG là avec Neymar devant.
Exactement.
Donc, exactement. T'as raison parce
tu veux qu'on parle de Verratti.
Bah non.
On peut en parler.
Non, parce qu'en fait,
de sa prestation. On sait ce que tu veux dire. De ce qu'il fait de bien et de pas bien.
Ouais, il a des choses. Il a quelques pertes de balles.
Le problème, c'est que c'est toujours la même histoire. Hein, et ça n'est que rien sans face. Il fait des choses très bien. Il fait des choses même extraordinaires. Et à côté de ça, il fait des choses qu'il ne doit pas faire, qui sont incompréhensibles, qu'on ne peut pas faire à ce niveau-là. Et pas dans sa position au milieu de terrain. Qui vont être excusables si c'est Neymar, Mbappé, mais quand t'es si bas sur le terrain,
quand tu perds le ballon dans les premiers relances,
tu peux pas prendre des risques de tourner sur toi-même, de ralentir le jeu, de pas donner, donne, envoie.
Mais c'est vrai, Daniel, t'es d'accord aussi que
si jamais il gommait ça. Il serait dans le chapeau, hein.
Je suis d'accord, si tu veux.
Parce qu'il ne veut pas gommer ça de son jeu.
Je suis d'accord, sauf que, alors, aujourd'hui, ça se voit pas forcément.
Bah, c'est Reims, donc.
Mais.
Il peut le faire.
Quand il prend ces risques-là, et que 9 fois sur 10, ça marche, c'est-à-dire qu'il déjoue le pressing adverse, je peux te dire que ça fait des espaces pour Mbappé et Neymar qui sont incroyables. Donc, s'il prend pas ces risques-là.
S'il touche plus vite encore, ça peut aller encore plus vite.
Oui, mais la différence, c'est que, c'est vrai qu'il attire.
Souvent, c'est inutile. Souvent, c'est inutile. Je te promets que souvent,
On me demande
parce que souvent il se met lui-même dans la difficulté pour pivoter et ressortir. En fait, il se met lui-même dans le truc pour te montrer. Tu sais, c'est comme s'il y avait la cabine téléphonique. Je rentre dedans, je ressors pour te montrer que j'en suis capable.
Moi, je vais te dire. Tourniquet. Et moi, je vais te donner mon exemple. Et ça, c'est vraiment. J'avais une façon et plus ça allait à la fin sur la fin. Si tu veux, quand je jouais sur le côté, plus après quand j'ai joué dans l'axe. Mais quand je jouais sur le côté où je manquais de vitesse et le foot a évolué. Donc, tu vois, les mecs sur le côté, il faut être percutant, il faut aller vite et tout. Et moi, j'étais plus un joueur de ballon. Un joueur qui gardait bien le ballon. Et ben moi je te dis que souvent je revenais sur moi, j'essayais d'attirer 2-3 mecs qui viennent au pressing, tu vois, ils veulent t'attraper vu que tu conserves assez bien le ballon, et lui c'est le cas. C'est vrai qu'il suffit juste de te retourner et de mettre la balle entre les deux, il le fait très souvent, mais tu déjoues le pressing adverse, t'as 2-3 mecs qui sont éliminés.
Sauf que Jérôme, sur la fin de ta carrière, tu ne jouais pas dans un club qui s'apprête à défier les plus grands d'Europe pour gagner la Ligue des Champions.
Top Mercato au programme dans quelques instants.
Je suis d'accord avec toi, et de l'athlétisation.
Oui. Tout sur le mercato et le foot européen, c'est à suivre dans l'after. Simone Rovera va nous rejoindre. Mercato lyonnais en débat dans quelques instants. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Jérôme Rantaine, Daniel Riolo, bien sûr. On va parler mercato dans quelques secondes. Juste deux petites réactions pour conclure sur le match PSG Reims. Tourelle qui dit on n'a pas joué sur une mauvaise pelouse, on a joué sur une pelouse horrible, dit-il. Et puis il dit concernant Marquinhos, pas de nouvelles, douleur aux ischios, pas trop grave, dit-il. Donc voilà, pas trop d'inquiétude
concernant Draxler.
Par précaution, alors.
Il n'a pas parlé de Draxler aussi, de son match.
Tu l'as trouvé nul ?
Parce que non, mais en fait, et on finira là-dessus.
Comme demande sur Direct Studio, on me dit et Draxler, vous en parlez pas. Encore indigent ce soir.
C'est vrai qu'il est indigent. Après, ça reste quand même un beau joueur de football, mais il est pas fait déjà pour jouer dans ce système-là. Tu le mets à droite comme ça, autant tu le mets à gauche, il a certains repères parce qu'il l'avait fait avec la sélection allemande. J'avais commenté la Coupe des Confédérations.
Draxler à la base, c'est un en haut à gauche. Hein.
Oui, voilà. Donc à gauche, à droite, il a aucun repère. En plus, dans une équipe où ça permute beaucoup, et en première mi-temps, c'était le cas. Neymar, il se retrouvait à droite dans l'axe, à droite. Et Mbappé, comme a dit Daniel tout à l'heure, jamais dans l'axe, plutôt sur le côté gauche. Donc Sarabia, un coup à droite, un coup dans l'axe. Donc il était un peu perdu, notre ami Draxler. Je veux pas. Mais c'était dans la gestion que je mettais en place, c'était mon troisième point de Thomas Tuchel. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut mettre en place. Il nous dit dans des interviews que le 4-4-2 n'est pas son système préférentiel, qu'il préfère le 4-3-3. quand tu joues avec les quatre de devant, Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar, ok, il a trouvé la formule et on est le premier à dire que c'est génial comme ça et tant mieux, les mecs s'éclatent. Mais quand t'as des mecs que tu mets au repos qui sont pas là, Icardi, Di Maria n'étaient pas là, tu fais rentrer Draxler et Sarabia. Ok, mais c'est pas les mêmes profils.
Il a voulu faire de l'interchangeable.
Mais ouais, mais donc dans ces cas-là, adapte-toi. Si ton système préférentiel c'est 4-3-3, ben rejoins 4-3-3. Il est où le problème ?
Il veut plus changer. Il veut laisser ça pour que Neymar, Mbappé soient toujours confrontés à l'effort défensif.
Mais d'accord, mais dans le 4-3-3, Daniel, t'es d'accord avec moi que de toute façon ils y seront confrontés.
J'ai pas dit que j'étais pas d'accord. J'essaie de jouer à Tuchel et à t'expliquer.
Donc tu préfères,
je pourrais te dire, à ta place.
Tu préfères
maintenant, je ne bouge plus. Je mets toujours 4 mecs devant.
Mais donc,
parce que je veux que les deux autres se fassent.
Tu vas gagner toutes les compétitions avec un groupe de 16-17 joueurs plutôt que 11 joueurs. On est d'accord. Donc quand tu mets Draxler à cette position-là, il fait une première mi-temps horrible. À l'arrivée, il sort et t'es pas très content. Donc en plus, c'est un choix sportif. Hein. Il le sort. Il fait rentrer Herrera. Peut-être que t'en auras besoin aussi sur l'année. Herrera, la deuxième mi-temps, vous l'avez vu? Où il a joué? Il a joué milieu droit. Non mais Herrera, il vient d'arriver, il a besoin. En plus, il revient de blessure, il a besoin aussi de toucher le ballon, de se rassurer.
Chaque fois qu'il est là.
Oui, mais sauf que là, il est quasiment invisible. Il n'est pas à son poste. Donc en fait, sur ce match-là où tu es qualifié en finale et normalement tout se passe bien, il y a un petit pépin physique, c'est Marquinhos. T'as peut-être perdu pour quelques jours ou quelques semaines des joueurs psychologiquement. Draxler, Herrera, pas une grande confiance aujourd'hui. Je suis désolé, il doit faire mieux dans son adaptation et dans ses méthodes pour que il laisse des mecs prêts à rentrer à n'importe quel moment.
On passe au mercato, les gars. Est-ce qu'on a un petit jingle mercato? Ça passe toujours bien, un petit jingle mercato, évidemment. Il va arriver.
Il n'y a rien à dire sur le mercato. Ah bah vas-y,
Maintenant ça bouge.
Je prends des avendus des joueurs nationaux.
Le jingle, dis à Paul de le mettre demain matin, c'est pas grave.
C'est parti.
Ah ouais. Et quand c'est. Je te dois 120 000 francs. La frite, elle est à 8 francs. La saucisse, à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Et le café, c'est moi qui l'offre. Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon.
Là, c'était un mercato. Pour l'instant, on avait un mercato niveau Nico Jamin à la présentation. Donc, j'espère que ce sera niveau Gilbert Bribois aujourd'hui. Vas-y.
Alors, ça, c'est plutôt du niveau Nico Jamin, je pense, pour pas te mentir. Kadewere, c'est fait. Voilà. Sauf qu'il reste au Havre.
Alors,
parce qu'il y avait les deux options. À 15 millions, il restait au Havre.
C'est vendu
et à 20 millions,
Star, c'est vendu Pépite, c'est vendu comment? Comment c'est emballé?
Je crois que c'est pas bien vendu. Pour l'instant, c'est vendu rien. En fait, c'est vendu Kadewere.
15 millions d'euros, c'est bien vendu quand même.
C'est pour ça que je te demande.
Mateta, il l'avait acheté combien, Mateta? Parce que ça ressemble un peu à l'histoire
moins,
de Mateta.
Mateta, franchement, c'est en dessous de 10, il me semble.
Ouais.
Donc Kadewere, je sais pas si qui peut.
À l'époque, ils avaient le choix entre Mateta et Adebayor.
Faire un topo, joueur niveau Lyon, joueur.
Écoute, Kadewere, je l'ai vu un match.
T'as pas appelé ton ancien coach préféré pour savoir comment il est?
Polo?
Ouais, appelle-le quand même, demande.
Non, je passerai le voir au Havre, il sera content.
Ouais, au Havre, ouais.
Ça va le réconforter un peu.
L'OL met fin à l'option série. Vous savez que Jean-Michel Série avait été approché par Lyon, mais non, finalement, c'est fini, il viendra pas.
Il reste en Turquie.
Ouais, exactement. Alors,
c'est un peu gâché, lui, non?
La série qu'on a annoncée à Barcelone, il se retrouve.
Il avait reproché à Nice à l'époque d'avoir fait capoter son transfert à Barcelone, rappelez-vous.
On avait eu son frère et tout qui avait appelé et qui pourrait expliquer
l'arrivée. Est-ce que c'est vrai ce transfert?
Bon.
L'histoire
Bruno Guimaraes.
Il est en Colombie en ce moment.
Comme tu le dis, dossier de Juninho. On parle de 25 millions d'euros pour ce joueur.
En Colombie.
Il y a une compète de jeunes brésiliens.
Bon, en tout cas,
joué contre l'Uruguay cette nuit d'ailleurs, si tu veux regarder un peu quoi il ressemble.
Non.
En tout cas, c'est en bonne voie pour que ça se passe dès cet hiver.
Dans la foulée, tant qu'il avec l'Open d'Australie, c'est bon.
Ce qui me permet d'ailleurs de parler un peu de Juninho. Qu'on connaît bien nous parce qu'il a bossé un peu avec nous sur RMC à l'époque avec Luis Fernandez. En fait, il faut pas qu'il prend le pouvoir, Juninho. Fais le ménage toi-même.
Est-ce qu'il a réellement?
C'est ça. Prends exemple sur Leonardo. Sois un peu méchant.
La personnalité.
Méchant par rapport à quoi?
Tu vas voir Florent Maurice, je lui dis, écoute Coco, t'es gentil. Hein. Maintenant, moi je suis ton supérieur, donc t'auras affaire qu'à moi. Monsieur Aulas, vous m'avez pris pourquoi? Pour que je sois le boss du sportif, restez dans votre bureau.
Tu veux qu'il
je vais le faire.
Florent Maurice au placard.
Gérard Roulier, t'es gentil.
Florent Maurice, il a qu'à
s'occuper. On t'appellera si on a besoin.
Ligue 1, là, Kadewere,
Ligue 2.
Les joueurs comme ça, là, il fait le
recrutement. Moi je suis sûr que ça va marcher, Juninho, si on le laisse faire. Mais il faut aussi que lui, il montre un peu les muscles.
Voilà. Non, mais à part la blague que je faisais, il faut qu'il s'affirme.
C'est ça.
Le pouvoir, parfois, ça se prend aussi.
Mais surtout quand t'as des postes comme ça.
Voilà. Et surtout quand t'es accueilli comme il a été tapis rouge, il a la confiance de tout le monde. Bon ben, gars. Voilà. Mets-le le costume ouais, et vas-y
attends,
quoi. T'as l'œil, tu sais ce que c'est qu'un bon. S'il y a bien un truc qu'on sait.
Et même si tu t'es planté au début, bah c'est pas grave.
Il manque un peu de charisme.
Et toi, tu penses
son œil,
ça mais...
L'œil pour savoir ce qu'est un bon joueur de foot, il sait ce que c'est.
Vous êtes des grands naïfs. Et moi je ne vais pas passer mon temps à le défendre. Mais là, je le défends à n'importe qui arrive, qui débute dans ses fonctions au mois de juin, juillet. Ça marche pas, son premier choix, Silvinho, il s'est planté, ok, pas de problème, les résultats.
C'est-à-dire quoi, qu'il a pris une claque à cause de ça?
Mais non, mais il a pris une claque, c'est surtout que où c'était lui qui devait tout diriger, c'était lui qui parlait médiatiquement et tout. On a été le premier à dire, Jean-Michel Aulas, tac, il a repris la main. Oui, non, oui. Et ben le problème, c'est que quand tu vois un président.
Il était parti s'enfermer tellement il était ému. Il paraît qu'il chialait entre la qualif et tout, tellement il y a eu de pression autour de ce match.
Mais oui, mais.
Bon, il va falloir quand même. Non, que...
Le problème, c'est que soit il a pas. Il n'a pas été capable de dire d'un moment à Jean-Michel Aulas, écoute Jean-Michel, tu m'as laissé, tu m'as donné les clés du camion, laisse-moi faire, je me suis planté une fois, ok, laisse-moi faire, c'est moi qui dirige le sportif, le problème il n'en est pas là. Je le sais parce que on a tous des infos et tout. Il aimerait recruter un joueur défensif, c'est-à-dire soit un numéro 6, soit un... Bon là, Guimarães, c'est un milieu terrain.
6-8.
Mais 6-8 plutôt. Mais un besogneux, tu vois, un mec qui ramène, et je pense, un peu de mentalité à cette équipe, soit défenseur central, soit... Le problème, c'est que le président, il a tellement investi sur Andersen. Ils se sont plantés, ça peut arriver de se planter sur un mec qui n'arrive pas à s'acclimater dans ce club, qui n'arrive pas à motiver les troupes et tout, parce que tu as besoin de joueur leader d'un moment, il faut qu'il arrive à dire, écoutez, laissez-moi faire, mettez la main, vous avez de l'argent, économiquement on est très bien, on va investir encore sur un défenseur, on s'est planté sur Andersen, ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais là, on ne peut pas rater ce mercato-là, renforcer cette équipe qui a besoin un peu de répondants au niveau de la mentalité. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit suivi de ce côté-là.
Bah, il faut qu'il le fasse.
Il a envie de le faire, il n'est pas suivi. Encore une fois, si ton président, il te dit, écoute, on a dépensé sur Andersen, on va pas encore dépenser sur un défenseur, on va prendre des joueurs offensifs, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va baisser sa culotte.
Alors dans le mercato, un petit mot également pour vous dire que Nice a vendu Rémi Walter à Malatyaspor en Turquie. Voilà, vous dire, avant de parler de Cavani, parce que ça c'est un autre dossier, vous dire que Thiago Maia, ça y est, a été prêté à Flamengo par Lille pour 18 mois, avec option d'achat. Voilà. Vous dire que Ziyech ne quittera pas l'Ajax cet hiver, alors qu'il aurait pu, et en fait il partira pas parce qu'il s'est blessé. Déchirure à un mollet. Du coup...
Le mollet c'est long.
Ah, ouais. Tiens, c'est un spécialiste du mollet, c'est Daniel.
Ça c'est moi ça.
Alors il y avait Arsenal et Tottenham sur le coup, mais du coup bah, il part pas évidemment, en tout cas cet hiver, Ziyech. Et puis l'on de Cavani, parce que bon, on se disait depuis le début, tiens, ah oui, alors les gens autour de Cavani sont réglo, ils disent rien et tout. Ouais, puis là, bah, ça y est, c'est sorti.
Là, c'est vraiment le signe qu'il faut que ça parte maintenant.
Alors, c'est sorti de façon assez étrange, parce que d'habitude, c'est l'agent ou quelqu'un.
Là, bah, c'est papa et maman s'en mêlent, on les a jamais entendus.
Alors, d'abord, c'est maman, Bertha qui dit dans As, il veut jouer à l'Atlético dès maintenant ou cet été. Et puis,
c'est pas pareil, dès maintenant ou cet été.
Ouais.
Oui, bah, des
ouais, laisse le choix parce que.
Voilà. Et puis maintenant, et puis après c'est son père, Luis Cavani, qui donne une interview à une radio, à une télé espagnole, et il dit, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il aille à l'Atlético. Pareil, il dit, ça peut se faire cet hiver, mais aussi en juin. S'il reçoit le feu vert pour s'en aller demain et que l'Atlético le veut, il signera. Et le père Cavani qui dit, les dirigeants de Paris vraisemblablement ne veulent pas le céder avant que la Ligue des Champions ne se termine pour eux.
Voilà. Oui, donc dans ces cas-là, c'est juin, donc finalement.
C'est un peu contradictoire. Non, mais ce qui est marrant, c'est les Espagnols, ils sont très forts parce qu'ils vont aller chercher le père, la mère.
Oui, mais si le père, la mère parlent, c'est aussi que finalement, on essaye de faire bouger un petit peu les choses et que. Il y a eu plusieurs prises de position différentes. Je pense que plus le temps passe, plus Cavani est en train d'insister et de dire bon, mais maintenant, laissez-moi, je veux y aller. Maintenant, je veux y aller, quoi.
Et puis une dernière petite info pour vous dire que Nîmes a recruté un attaquant, il s'appelle Moussa Koné, il vient de Dresde, il était passé par Zurich.
Il prépare la Ligue 2 quoi.
Où il avait marqué 23 buts en 62 matchs, donc voilà. Non, Zurich 16 buts en 27 matchs, ce qui est pas mal.
Je maintiens parce que certains peuvent se dire, oui, mais au début on disait qu'il voulait pas partir et tout. Je maintiens qu'au début son intention... pendant les fêtes n'est pas de se casser tout de suite. Il ne pense pas, il croit encore que la tournure va pas être celle qui lui est infligée dès le premier match rapidement, de voir que réellement il est complètement tricard par Tourelle. Petit à petit, il est en train de prendre conscience. Il dit putain, mais c'est moi là. C'est vraiment comme ça que c'est en train de se passer. Et là, il y a eu revirement complet pour dire laissez-moi partir, quoi. Il y a eu un cheminement dans son esprit.
Tu veux
pour
que
en arriver à une décision. Lui ne pensait pas que ça allait être à ce point radical. Qu'il ne joue plus du tout, quoi.
Tu veux que j'aille plus loin, c'est que le déclic, toi tu dis pendant les fêtes, moi je te dis que le déclic, il a eu lieu à Madrid. Et quand il n'est pas rentré à Madrid, le match a été catastrophique à Madrid, il a pris un gros coup derrière la tête.
Moi je pense que pendant les fêtes, il pense encore qu'il va rester.
Et je peux te... Mais non, bah, en
il
fait.
Il dit, bah, à ce moment-là, je sais, il parle, excuse-moi, je
sais. Oui, non, mais oui, mais
il dit, tu crois, pour l'instant, quoi, moi, je ne veux pas partir, je reste. Mais rapidement, il prend conscience, il dit, ah non, je suis vraiment tricard, donc ok, bah, je pars alors.
Non, mais tu sais, et puis il y a aussi l'intérêt des clubs.
Oui,
des clubs
en plus,
qui n'étaient pas prêts, parce que l'Atlético Madrid, au départ, ils ne sont pas prêts à le prendre maintenant.
Ça montre une fois de plus que dans toutes ces matières de transfert, de machin, du jour au lendemain, les choses évoluent vachement.
Non, mais de toute façon.
Les choses évoluent tout le temps dans ces matières-là.
J'en ai fait un avis lundi, mais ça reste un passionné de football et lui, il a envie, c'est de jouer, d'avoir la confiance de ses coéquipiers, de son entraîneur, d'un club. Et aujourd'hui, il l'a pas du tout, il l'a plus du tout à Paris. Et ça, c'est la réalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cavani, qu'on n'aime pas le PSG, sa tête, elle est ailleurs. Donc, même si tu le forces à rester, parce que en effet il est dépendant du choix de Leonardo, de savoir s'il va accepter l'offre de l'Atlético, mais tu peux le garder, mais Cavani tu le récupéreras jamais comme il était avant, donc ça sera un échec sur la fin, et c'est malheureux ça.
Demain, sachez-le, after à partir de 21h, alors on vous a prévu quelques dossiers sympas comme d'habitude, on va revenir sur les grandes erreurs d'arbitrage dans l'histoire du foot, un doc qui est passé sur RMC Sport 1 il y a quelques jours et qui est toujours disponible, qui est toujours disponible en podcast.
Magnifique doc réalisé par
on en parlera demain.
Mais Benoît Millot est dedans ou pas?
Non, il n'a pas encore. Benoît Mignon n'a pas encore. Il n'a pas encore fait d'erreurs manifestes.
Erreurs manifestes.
Surtout, ce que vous devez dire, c'est que Benoît Mignon brille pour l'instant par ses arbitrages parfaits.
Voilà, pour l'instant, il n'a pas encore fait la grosse erreur qui marque le foot.
Apparemment, il est numéro 1 devant le VAR.
Comment ça?
Au VAR Center.
Ah, au VAR Center,
il est numéro 1. Il est classé numéro 1, le meilleur.
Il y a des classements?
C'est mes échos.
Essayons de lui proposer.
Dans ces cas-là, il faut dire selon mes informations.
Il travaille selon mes informations. Il travaille maintenant selon mes informations pour être le numéro 1 sur le terrain.
Qu'est-ce que tu lui conseilles? Et je lui souhaite. Benoît Millot, pour qu'il marque l'histoire du foot. Carton rouge au bout de 15 secondes pour faire mieux que Joël Quignoux. Un truc définitif dans un gros match.
Ah, Jojo, il a fait sa carrière là-dessus.
C'est qu'il peut pas faire maintenant, tu vois, il peut pas laisser un but de la main et tout, parce que le VAR lui dira de l'accorder.
Le truc qui n'a jamais été fait, c'est arrêter un match à cause de cris racistes, par exemple, dans les tribunes. Là, il dit, maintenant, je prends sur moi, j'arrête tout.
Vous rentrez tous.
Vous rentrez.
Ouais. Voilà, là, il peut devenir un marquant. Voilà, on va lui conseiller ça.
Voilà. Ce sera demain à 21h. Plongez également dans le.
Ne marque pas l'histoire du foot.
Plongez également dans le foot de l'ex-Yougoslavie demain soir.
Ce mec-là, c'est pas possible.
Avec un bouquin très intéressant, vous verrez.
C'est pas possible. Et
il me dit plus bonjour. Le jour où c'est ça, il me dit plus bonjour.
Donc si vous êtes fan de foot croate, serbe et compagnie bosniaque, ce sera demain soir dans l'after. Et puis on aura peut-être un invité surprise demain.
Qui?
C'est une surprise, je le dis.
Bosnie, Serbie, à mon avis, c'est Vaïd.
Non, pas sur ce thème-là. Ah mais un invité surprise. Un homme qui veut.
Faire venir sa fête.
Un homme qui veut.
Sa fête est dans le coin, pourquoi tu l'appelles pas?
Sa fête est dans le coin, ouais.
Sa fête tout de suite?
Bah ouais. Lui qui
veut
la légende.
Lui qui veut plus venir au Parc des Princes.
Ah pourquoi il veut plus? Parce qu'on l'invite pas?
Si, mais il refuse à chaque fois.
Sa fête, il est là, trouvons-le, faisons-le venir demain.
Pourquoi
tu dis que tu fais une spéciale sur.
Mais ça, c'était pas l'invité surprise.
Bah, tu vois, là, ce serait plus que surprise si tu l'invites.
Bonne idée.
Demain, on se met dessus, on essaye de.
Ça fait ça.
Ah bah oui.
Bah ouais.
Dans quelques instants, l'Italie, et puis des nouvelles de Paul Pogba également à suivre dans l'after. Bougez pas, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, Jérôme Rantaine, Daniel Riolo, ils sont là. Simone Rovera nous rejoint dans quelques petites secondes. Juste, je vous ai promis des nouvelles de Pogba. Mino Raiola, fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Mino Raiola. Il dit, tout le monde sait que les objectifs de Pogba et United n'ont pas été atteints ces dernières années. Soyons honnêtes, c'est pas un secret. Il faut qu'on fasse le point des deux côtés pour envisager la suite. Donc en gros, comme on dit dans le milieu, il ouvre la porte.
Je traduis.
Vas-y.
Je connais un peu le...
Le monde du milieu, comme disait Louis.
Il va aller rencontrer, voilà, il va ressortir avec un montant de transfert et puis il va partir. Parce que le mec n'en peut plus et il veut plus jouer à Manchester United.
C'est tout. Bon, déjà là, il est blessé en ce moment. Hein.
Oui, oui, non, mais de toute façon, ça va se passer comme
ça. Il est en train de boucler une deuxième saison blanche pour un mec de son niveau.
Ouais, c'est vrai que là, il est. Moi, je l'ai souvent défendu, mais là, on est obligé de constater quand même qu'il stagne.
Énorme pendant la Coupe du Monde. La saison d'avant la Coupe du Monde, très moyen.
Et début depuis de saison, la saison a été bon.
Et de. Avant, celle d'avant, oui. Donc là, maintenant, en club, il va boucler sa troisième saison où c'est sans arrêt une baisse. Ouais. C'est une baisse sans arrêt. Il est de moyen, très moyen.
Non, mais là,
là, maintenant, on ne peut carrément plus en parler de ça.
Comme tu dis, et ce qui est plus grave, c'est que bon, la régularité, la constance, de toute façon, quand tu es blessé, tu ne peux pas l'avoir, mais c'est de ne plus
c'est
avoir.
Chaud après de revenir.
C'est, non, mais c'est de plus avoir de repères sur un gros match. Même si tu en as un, qu'un seul sur les deux ou trois derniers mois, mais l'essentiel, c'est d'en avoir. Là, le problème, c'est que aller, le dernier gros match de Pogba.
Le Real le veut toujours, le Real va le relancer. Oui,
Simone Rovera, tiens, peut-être qu'en Italie, il y a des clubs qui sont intéressés par Pogba. Salut Simone.
Je rigole, maintenant, ils ont Rabiot titulaire.
Ciao, bonsoir. Bonsoir.
Simone, l'homme de José Mourinho.
Écoute, j'ai fait un tweet, j'ai pensé à vous ce soir.
Pourquoi?
Parce que j'ai fait un tweet en voyant les images transmises dans RMC Sport sur les vides au théâtre des rêves. Et j'ai dit, heureusement que c'était la faute de Mourinho si Manchester allait mal. Donc voilà, j'ai pensé à vous.
Dis-moi, énormément. Papa, on en parle en Italie éventuellement. Il intéresse toujours des clubs ou pas?
Mais personne.
Mais qui est-ce que
ça intéresse toujours la même. Ça intéresse toujours la même.
Voilà.
Ça dresse toujours la même équipe que j'ai vue ce soir, c'est-à-dire la Juve. Et selon certains bruits de presse, l'ancien directeur général de la Juve, qui aujourd'hui à l'Inter, Giuseppe Marotta, qui a une excellente relation avec Mino Raiola, rêve de faire les gros coups la prochaine saison. Cette année, ils ont pris Lukaku. Et ça pourrait être les gros coups de la saison prochaine. Pogba, mais je crois beaucoup plus en retour à la Juve qu'en arrière à l'Inter. Mais c'est, oui, ça fait la une des journaux souvent.
Et ben voilà.
Ouais, ça serait une connerie pour lui, je pense.
Bon,
retourner dans un club à exceller comme ça.
On voulait faire un petit point sur la Coupe d'Italie avec toi, parce qu'il y a des belles affiches là cette semaine. Alors, toi, tu étais à la Juve ce soir, donc qui a battu la Roma.
Est-ce que tu crois qu'un jour tu diras Juve? Ou tu veux pas du tout?
Non, mais je veux dire Juve.
Dire, non, mais si tu veux pas, tu me dis.
Je veux dire la française.
Je pense que
t'as le droit.
Je pense qu'il le fait pour te tenir tête, pour te contrarier.
À chaque fois que tu dis, ça me fait penser au commissaire Juve, quoi, tu vois, contre Fantomas.
Comme je dis Inter.
Mais t'as le droit. Déjà, c'est mieux de dire Inter que de dire Milan quand on parle de l'Inter. Oui, de dire les Milanais quand on parle de l'Inter. Simone, il entend ça, il est par terre.
C'est pas un conflit, c'est une discussion.
Bah, Simone, ça t'a jamais fait renverser et la nausée quand t'entends qu'on dit les Milanais pour les intéristes? C'est dur.
Ouais, mais j'ai entendu même Bergame quand c'est l'Atalanta, que pour moi c'est difficile de penser à Bergame, mais parce que je pense au nom du club, même si c'est correct. Ou j'ai entendu même Gênes quand c'est la Sampdoria. C'est la ville, mais bon, c'est notre club.
Ça, c'est dur.
Et donc, c'est grave. C'est grave. Mais bon, on revient à l'actualité parce que c'est vrai, il y a eu deux matchs. Surtout celui d'aujourd'hui, plus que celui d'hier. Celui d'hier était un peu fou, hein, parce que Naples, finalement, a gagné un match. Et quel match face à la Lazio et s'est qualifié pour une demi-finale de Coupe d'Italie qui relance un peu l'ambition, la machine de Gennaro Gattuso. Et les matchs étaient totalement fous parce que Insigne marque après quelques minutes. Insigne, loupe en pénalty en tombant sur le point de pénalty et donc fait glisser les ballons aux étoiles. Naples reste à 10 à la 18e minute et quelques minutes plus tard, un joueur expérimenté avec beaucoup d'expérience comme Lucas Leiva prend un carton rouge direct pour contestation et donc ça met une énorme difficulté à la Lazio qui cherchait de glisser. Ça terminait 1-0 pour Naples qui, comme j'ai dit, prend une énorme
d'oxygène
parce que la situation était vraiment intenable. Et ce soir.
Souffler d'oxygène.
Souffler
d'oxygène.
Continue, Simone, ne t'occupe pas. On a tout compris.
Non, je pense que si quelques supporters de Lyon a regardé les matchs, ça peut se faire encore un peu plus peur parce qu'on a vu l'homme qui pour moi va changer la Juve en deuxième partie des saisons. Non, c'est pas Adrien Rabiot, mais c'est lui qui joue, c'est l'autre côté, c'est Rodrigo Bentancourt.
Ah,
moi, qui revient après trois matchs de suspension.
J'ai toujours adoré Bentancourt.
Et ça continue la dynamique de Bettencourt qui est les joueurs qui changent à niveau des vitesses, des idées et des percussions les milieux de terrain de la Juve.
Est-ce que Matuidi est en train de reculer dans la hiérarchie, Matuidi? Comment ça se passe?
Il paraît que c'est beaucoup aujourd'hui moins bien, était remplaçant. Aujourd'hui était remplaçant. Pour moi, il est pas dans une excellente condition physique.
Ouais,
il perd plusieurs duels dans les jeux. Et Rabiot a joué son 7e match titulaire consécutif. Ouais. Ça commence à devenir une évidence. Le Duc sûrement va prendre la place de Blaise pour moi dans les prochaines semaines.
Il paraît que le Duc dit dimanche, j'ai deux matchs dans le pied gauche maintenant.
Mais bon, dimanche il est à Napoli-Juve. Je peux penser même un peu des turnover pour Rabiot. Mais s'il y avait un match important entre une match élimination directe face à la Roma et un match à Naples en championnat, je pense que c'était le match élimination directe. Donc je ne dis pas que c'est beaucoup moins important Naples. Aujourd'hui, Naples, c'est une équipe en énorme difficulté. La Juve a déjà un bon avantage en championnat, c'est 4 points, mais quand même, c'est les championnats est long. La Coupe d'Italie, c'était ce soir ou élimination. Et donc, si les matchs plus importants étaient sûrement celui-là. Christian a joué, a marqué. Donc, c'était bien évident que ces matchs.
Est-ce que tu as exporté.
Si Rabiot et Bettencourt ont joué.
Ah, on n'a pas le temps. Oh là, oui, on n'a pas le temps.
Ah oui, il est parti, Simonet.
Non, je ne t'entendais pas. J'entendais
je te disais les infos du soir sur Giroud, rapidement.
Les infos du soir du Giroud, c'est que l'Inter est en train de boucler un accord avec Naples pour vendre Politano et récupérer en prêt Fernando Llorente. Si cette histoire se détermine, pour Olivier Giroud, ça devient presque impossible de venir à l'Inter parce que l'Inter aurait déjà pris l'attaquant remplaçant de Lukaku et ce serait Fernando Llorente.
Merci Simonet, on reparlera de tout ça demain bien sûr, demain after à partir de 21h. Jérôme, Daniel, je vous dis donc à demain soir.
Allez, à demain.
Avec toute l'équipe, Ulysse Agnol sera également avec nous. Bonne nuit à tous et à demain dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.